L'invité de la rédaction, Valérie Vial.
Mon invité de la rédaction aujourd'hui est Pascal Baquet, écrivain, poète, auteur de théâtre. Il était à Strasbourg pour une conférence autour de son ouvrage Double 13 poèmes de la Torah. Pascal Baquet, bonjour.
Bonjour.
Vous étiez à Strasbourg. Qu'est-ce que c'était, une ville que vous connaissez? Vous étiez déjà là. Quel est votre lien avec cette ville et avec la communauté juive, bien évidemment?
C'est un lien ancien. J'étais venu quand j'avais 18 ans pour la première fois chez Benny Lévy, dont j'ai été proche pendant un certain temps. Et oui, c'est une ville qui m'est chère et où j'ai encore beaucoup d'amis. Et donc voilà, c'est une ville que je fréquente régulièrement.
Alors, un parcours atypique, élevé dans la religion catholique, dans une famille pratiquante. Vous êtes aujourd'hui converti au judaïsme. Vous avez épousé une juive avec qui vous avez eu 8 enfants. Mazel tov pour cela. Et vous êtes aujourd'hui professeur de littérature et d'études bibliques et talmudiques. Un parcours assez extraordinaire. Surtout un parcours atypique. Aujourd'hui, vous avez conscience aujourd'hui d'avoir fait ce chemin qui est difficile. Hein. La religion juive n'est pas prosélyte, loin de là.
Oui.
Vous avez eu envie de faire. Alors, c'est par amour, c'est par amour des textes. Comment ça s'est passé?
Ça s'est passé comme une évidence personnelle qui s'est d'abord fondée sur mon écriture. C'est dans mon écriture que l'évidence de la guéroute, donc de l'étrangélisation, que je préfère à conversion, s'est imposée. C'était une écriture poétique et la distance avec le catholicisme de ma naissance, elle s'est surtout formulée comme une insuffisance à mes yeux de ce que j'avais entendu. Et aussi comme une évidence de mon inscription d'étranger dans un peuple étranger. Un peuple, parce que le peuple juif est un peuple étranger, un peuple qui est idéalement étranger, puisqu'on dit, en ce qui concerne l'avenir de ce peuple sur sa terre, « Guérim v'toshavim atam imadi », vous êtes étranger et résident avec moi. Et cette certitude personnelle est donc devenue aussi une certitude d'une inscription dans quelque chose de collectif. Et ça m'est apparu fondamentalement dans mon écriture poétique. Et puis, je rajouterais peut-être ceci, parce que, d'une certaine manière, faire le pari d'une écriture poétique, c'est se sentir en charge de la langue, de sa propre langue. J'ai très tôt conçu que ma propre langue avait quelque chose de maladif aujourd'hui. Et que ce bain d'étrangéité que je vivrais moi-même, c'était aussi un bain d'étrangéité pour ma propre langue, et qui me paraissait essentiel dans ma vocation poétique. Voilà.
Aujourd'hui, alors on le disait, 8 enfants, on est de la même année, il me semble, ils doivent être relativement grands aujourd'hui. C'est une éducation que vous avez donnée à vos enfants, où vous avez laisser, comme vous l'avez eu, cette découverte de notions d'une religion ou d'une autre. Vous avez amené cette culture philosophique de curiosité aux enfants, ou est-ce que vous les avez élevés dans la tradition religieuse juive?
Alors, j'espère avoir été le plus possible ouverts à toutes les voies de l'intelligence. Je dirais que j'ai un peu de mal à signer le nom de tradition religieuse à ce que nous vivons quand nous sommes des juifs, des mitzvot et des juifs de l'étude. Je ne crois pas beaucoup aux religions. Parce que pour moi, les religions sont des institutions fondamentalement sociales et politiques. Et je pense que, je me souviens de la phrase que Benny me disait, le judaïsme est une machine de guerre contre la religion. Mais Rosenzweig a dit ça aussi, en disant que la tâche du talmudiste qu'il devenait, c'était unreligious sein, c'est être irreligieux. Parce que justement, il ne s'agit pas d'une affaire de religion ni d'institution. Il s'agit d'une affaire d'intellection, d'intelligence. Et il s'agit d'une affaire de dépassement des cadres mortifères de la pensée. Et donc, j'espère donc, bien sûr, avoir ouvert mes enfants à cette liberté de pensée. Mmh. Et je pense que c'est une particularité, sans doute, du judaïsme français, de pouvoir vivre très clairement et très, très consciemment cette exigence de la liberté de pensée. Mais mes enfants, il se trouve que mes enfants sont des juifs de l'étude. Voilà.
Vous êtes très ancré ici en France. Aujourd'hui, vous, votre regard que vous posez sur le monde, il est à travers les textes religieux. Vous avez une conscience politique. Est-ce que vous prenez part d'ailleurs au débat, au débat de l'humain dans le monde, dans sa façon aujourd'hui de mettre des frontières en place ou non? Ou est-ce que ça vous est totalement étranger?
Je pense que il faut savoir ce qu'on est, ce pourquoi on est fait. J'ai commencé par l'écriture poétique, ensuite par une écriture de prose, mais qui est quand même très proche du poème et qui est très, si je puis dire, exigeante. J'ai ensuite mis une partie de moi-même dans l'étude. Si je répondais abstraitement, je vous dirais que de la même façon que le juif est irréligieux, il est antipolitique. Mais je sais que la chose est discutable, évidemment. Mais c'est ma plus absolue conviction. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'il est absolument vital qu'il y ait une parole qui échappe à cet arraisonnement, à ce saisissement des gens par un discours qui les broie et qui est toujours plus assimilateur à l'intérieur de la machine du réseau politique. J'ai d'ailleurs, dans un livre que j'ai écrit, donné une espèce de forme presque mythique ou mythologique à ce réseau, je pourrais vous en parler. Je me tiens autant que possible, dans la mesure où c'est possible, à distance du quotidien, du matraquage politique. Voilà.
C'est quoi votre ancrage, vous, au quotidien, justement, quand on est dans l'étude et des textes, quand on est dans l'écriture de poésie, de prose? Comment est-ce qu'on est ancré dans le quotidien en tant qu'humain?
On est ancré dans le quotidien d'abord parce qu'on bosse un peu, parce qu'on a des têtes blondes avec qui on se fracasse quotidiennement, parce qu'on a des enfants, parce qu'on a aussi... J'ai la chance d'avoir tout un monde assez extraordinaire d'amis, de plein de milieux et de plein de... plein de mondes, planètes différents, de tous les niveaux sociaux, etc. Et ça, voilà, on a, mais en vérité, ce qu'on partage tous, dans le fond, avec avec cette socialité qu'on se donne à soi-même, c'est que justement, c'est un luxe. Elle se sent libre à l'égard du poids de la pression sociale. Et ça, je dois dire, c'est un luxe qui se paye, hein. C'est un luxe qui marginalise, mais qui en même temps est merveilleux à pouvoir vivre.
Alors, auteur de nombreux livres, on l'a dit, il y en a un qui va sortir en 2026, La guerre de la terre et des hommes aux éditions Elliott. C'est une réédition, c'est un livre que vous avez réécrit, c'est pas uniquement une réédition, hein. Vous avez repris les textes avec Thierry Consigny, oui. Et vous avez réécrit certaines parties que lui ne comprenait pas. Vous avez, vous, l'envie d'être le plus clair possible et de toucher le plus de monde possible. Vous avez, vous, une idée, une radiographie de vos lecteurs?
Très bonne question. En deux mots, cette guerre de la Terre et des Hommes, c'est un projet d'écriture qui m'habite depuis 15 ans, peut-être un peu plus. J'en ai publié trois tomes chez Masso il y a 7-8 ans. J'avais écrit deux tomes suivants, ce qui fait que le tout fait 5 tomes. Et c'est une narration dont le résultat final fera 2000 pages. C'est une narration dans le fond de l'histoire de l'Occident sous la pression d'Israël. Voilà, en gros, du juif. Hein, quand je dis Israël, c'est le juif, le juif réel, si je puis dire, c'est-à-dire le juif qui habite l'étude juive. Et ce livre traverse cette histoire de l'Occident sous plusieurs modes. Les tomes ne sont pas tellement une saga. Il y a des personnages, il y a une dimension romanesque, mais dans le fond, le texte demeure un texte philosophico-poétique. Mais en gros, les cinq tomes, c'est... Le premier tome parle de l'histoire, donc les personnages, c'est Churchill, Tolkien... Le deuxième tome parle du monde contemporain et de la question du moi. Et du coup, cela applique à celui qui connaît le mieux, à savoir lui-même. Donc le moi, en l'occurrence, c'est le mien, dans le deuxième tome. Le troisième tome parle de la collapsologie, de cette fascination de l'Occident pour sa propre autodestruction. Et il reste deux tomes suivants qui sont donc, eux, totalement inédits. Le quatrième s'appellerait « Le livre d'âme », point, parce que c'est le livre d'Amalek. Donc de la négation radicale du juif, et le cinquième tome, qui s'appelle « Le premier matin », a pour cadre fondamental l'étude. Et en gros, ce livre, donc, qui est d'une ambition un peu anormale, ce livre veut saisir ce qui, dans le fond, est un piège, le piège de l'histoire. Justement, vous me posiez la question tout à l'heure du piège de la politique, du piège de l'histoire, du piège de la raisonnement politique. Ce piège, je lui donnais un nom bizarre dans mon récit, qui parcourt les cinq tomes, c'est la tourbe. Cette tourbe qui est une matière végétale, mais qui est une matière végétale qui se nourrit d'elle-même, et qui pourrait être une métaphore de la culture qui se nourrit d'elle-même, qui s'auto-dévore, et qui piège les hommes dans le réseau, comme si dans le fond... Ce que je racontais dans cette affaire, c'est que si on parle de l'IA et si on parle du poids des réseaux sociaux aujourd'hui, tout ça n'est jamais qu'une technicisation de quelque chose qui a toujours été. Et que dans le fond, l'enfermement des hommes dans les réseaux date du premier jour de l'histoire. Et précisément pour moi, le juif, c'est celui qui produit une effraction, une sortie, un arrachement à cette tourbière. Tourba en latin, en plus, heureuse surprise, ça veut dire la foule. Et évidemment, à nouveau, le juif paye pour ça, mais c'est lui qui vitalise, si vous voulez, cette tourbe. Donc voilà en gros le projet. Et effectivement, comme c'est une écriture qui vient du poème et que c'est une écriture qui est donc difficile, Thierry Consigny, qui est un écrivain et un homme absolument remarquable et un très grand lecteur de poésie, mais qui est un esprit clair, qui est aussi un grand publicitaire, m'a forcé à sortir du bois et à sortir de mes énigmes. Et donc c'est un travail de réécriture avec lui qui a duré 2 ans. Il venait plusieurs fois par semaine dans ma choule parisienne de la rue Bafroy, dans le bureau du comité où nous avons tout repris. Et ce travail du quotidien de relecture, elle prend enfin forme et donc paraîtra en janvier chez mon éditeur Elliot. Et voilà, j'ai beaucoup de... Alors, vous me demandiez le public. Je sais que j'en demande trop. Je demande trop d'efforts. J'ai une écriture qui est très abondante, qui est une écriture qu'on ne pratique pas aujourd'hui. Mais je pense que pour faire face à l'espèce d'énorme bascule qu'on est en train de vivre, dans le langage, dans l'histoire, dans la pensée, eh ben il faut ressusciter la fibre épique ou la fibre mythique. Et j'essaye de faire ça autant que je le peux. Voilà.
Et d'élever, quelque part, les âmes et la curiosité de vos lecteurs.
Oui.
Pascal Baquet, donc merci infiniment. Vous étiez à Strasbourg pour la présentation de votre ouvrage « Double 13 poèmes de la Torah ». Double 13 poèmes de la Torah, on va quand même parler de cette... Oui, effleurer cet ouvrage. Le titre est déjà très énigmatique. Oui. Double 13 poèmes de la Torah, expliquez-nous.
Alors, pourquoi double? Le titre, c'est double. 13 poèmes de la Torah, c'est seulement un sous-titre. C'est le fait que dans le Roumage, dans le Pentateuque, les passages poétiques sont toujours fondés sur des versets dédoublés. C'est-à-dire que le poétique dans la Torah, c'est pas les rimes, c'est pas les vers, c'est ce qu'on appelle les rimes d'idées, c'est-à-dire l'écho à l'intérieur d'un même verset d'une idée qui se répète elle-même, et cette répétition fait l'essence du poétique et l'essence du rythme même de cette poésie. Et J'ai voulu proposer à un lecteur, qu'il soit non-juif ou juif, un voyage dans plusieurs tentatives, dans plusieurs couches de traduction, parce qu'il y a quatre couches de traduction dans mon texte, de la traduction littérale jusqu'à une appropriation par un juif qui étudie, donc c'est un exemple, si vous voulez, d'appropriation personnelle du texte, suivi d'une traduction qui serait dans la plus belle langue poétique française. Et dans un avertissement qui est vraiment la règle du jeu, donc il faut tout à fait lire au début du livre, je dis que dans le fond, la langue française n'a jamais rencontré sérieusement la poésie biblique, parce qu'elle l'a rencontrée hors de la lettre hébraïque, elle l'a rencontrée à partir de la traduction latine de la Vulgate. Et donc ce que j'essaye, c'est de taper sur la tête de cette langue française pour lui faire entendre quelque chose que, dans le fond, elle s'est débrouillée pour ne pas entendre jusque-là. Voilà.
Passionnant. Alors moi, j'invite évidemment nos auditeurs à retrouver également vos écrits. Vous collaborez avec Bernard-Henri Lévy pour la revue littéraire La Règle du Jeu.
Oui.
Et on peut retrouver des écrits, et vous partez de vos textes à vous. Vous avez un thème imposé, comment ça se passe?
Non, c'est des articles que j'écris spontanément, parfois sur des textes qui me parlent, parfois sur des amis. J'ai un ami peintre, Christian Bonnefoy, sur qui j'ai beaucoup écrit dans La Règle du Jeu et que j'aime énormément. Et voilà, ce sont des articles que j'ai le luxe de pouvoir les écrire au fur et à mesure de mes coups de gueule ou de mes coups de cœur. Voilà.
Merci infiniment, Pascal Le Baquet, d'être passé dans nos studios ici à Strasbourg.
L'invité de la rédaction, Valérie Vial.